Bonjour frères et sœurs, un très joyeux sabbat à vous tous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans les églises chrétiennes du monde croient que l'Ancien Testament n'est plus en vigueur, que maintenant, dans l'ère du Nouveau Testament, tout ce qui était avant Matthieu, Marc, Luc et Jean est aboli. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de l'Ancien Testament. Les lois de Dieu y sont expliquées. Des prophéties pour les temps à venir s'y trouvent. Des exemples instructifs des vies des gens avec qui Dieu a travaillé s'y trouvent également. Et puis, il y a toute l'histoire de la nation d'Israël. Le Nouveau Testament nous dit que beaucoup de choses qui ont été écrites à propos de l'histoire d'ancien Israël sont pour notre instruction aujourd'hui, afin que nous apprenions certaines leçons, nous, dans l'ère chrétienne maintenant. Je propose aujourd'hui que nous regardions un de ces passages mentionnés dans le Nouveau Testament pour souligner certaines leçons que nous devons apprendre de ce qui s'est passé en Israël. Il s'agit d'un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et c'est le texte, si vous voulez, que nous allons prendre et étudier aujourd'hui pour voir ce que nous pouvons tirer de l'histoire d'ancien Israël, de certains épisodes dans leur histoire, qui a une importance capitale pour nous aujourd'hui. Reportez-vous avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Nous commencerons au verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. L'apôtre Paul dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. » Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons point de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'est assis pour manger et pour boire, » puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous avons ici, dans ce passage, dans 1 Corinthiens 10, quatre leçons sorties de l'histoire d'ancien Israël et que l'apôtre Paul applique explicitement à l'expérience chrétienne aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est regarder ces quatre points et essayer de savoir quelles en seraient les applications pour nous aujourd'hui dans l'ère chrétienne. La première se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 7. « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. » Là, il est référence à quel épisode dans l'histoire d'ancien Israël? Eh bien, regardons Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Et nous allons voir un exemple où les enfants d'Israël ont fait exactement cela. Exode chapitre 32. Verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Alors, vous comprenez le contexte ici, les Israélites venaient de sortir de l'Égypte, Moïse était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, les instructions de Dieu, et il tardait, ça se faisait long, et les gens commençaient à penser peut-être que quelque chose lui est arrivé. Ils sont retombés dans leurs anciennes habitudes. Ils voulaient un Dieu physique, quelque chose qu'ils puissent voir, qui marche devant eux. Verset 2. Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Quand il est question de se divertir, ils ne jouaient pas au foot. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous de ne pas être idolâtres? Ni chez vous, ni chez moi, nous ne mettrions jamais une idole, un veau d'or. Nous n'aurions jamais de vraie idole de notre Dieu. Ça, nous ne ferions pas. Alors, quelle est l'application de cela pour nous autres chrétiens aujourd'hui? Eh bien, réfléchissons un instant. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est une représentation d'un dieu. Ceux qui ont des idoles ne croient pas vraiment que leur morceau de bois, de métal, etc. était le dieu. C'était une représentation de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils croyaient que l'idole avait quelque pouvoir magique puisque ça représentait cet autre, ce dieu, des minuscules. Mais ils ne croyaient pas que c'était le dieu. C'était une représentation pour plaire à ce Dieu ou pour les aider à comprendre mieux un être qui peut-être dans leur esprit les dépassait. Mais ce que nous voyons dans les commandements de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas de ces représentations. Dieu ne veut pas que nous ayons des représentations de lui, parce qu'en fait, une idole limiterait Dieu dans nos esprits. De réduire Dieu à un objet qui ne bouge pas, un petit objet que nous pouvons placer quelque part dans la maison, limite Dieu dans l'esprit de la personne. C'est là, par exemple, le problème des crucifix. Si vous avez un crucifix, on limite Jésus à cet être au moment de sa mort. Il est pendu là, mort à la croix, et malgré la personne, ça limite ce que Jésus-Christ est dans son esprit. On pense à lui surtout comme un être mort, pendu au bois, alors qu'aujourd'hui Jésus-Christ est vivant à la main droite de Dieu et agissant dans la vie de tous les chrétiens qui dirigent son Église. Il dirige activement l'œuvre dans nos vies. Alors la leçon de l'idolâtrie pour nous aujourd'hui, au moins une leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous ne devons pas limiter Dieu dans nos esprits. Nous ne devons pas limiter Dieu dans nos esprits en ayant une idole physique, quelque chose en bois ou en métal, mais nous ne devons pas limiter Dieu dans nos esprits dans un sens plus vaste non plus. Nous ne devons pas imaginer que Dieu ne peut agir que selon ce que nous pensons dans nos esprits qu'il devrait faire. Et c'est une leçon parfois difficile, même pour des chrétiens. Si vous êtes comme moi, frères et sœurs, honnêtement, ouvertement, probablement à un moment donné à un autre, nous avons tous dû affronter une frustration de voir l'Église si petite, après ce qu'elle était, il y a quelques années. Et peut-être que vous vous êtes posé la question, je sais que moi je me suis posé cette question, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Il aurait pu l'empêcher, n'est-ce pas? Et cela aurait été tellement plus facile pour nous, pour l'œuvre. On aurait été plus nombreux, les finances auraient été plus importantes, nous aurions plus de personnes pour faire le travail, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose de se poser ces questions, mais nous devons toujours faire attention à l'attitude dans laquelle nous le posions, et aussi à l'attitude que nous allons avoir, avec laquelle nous allons vivre, vis-à-vis de Dieu, quand nous avons ce genre de questions. Je dois vous dire qu'aux États-Unis et même en Europe, j'ai vu des personnes pour qui ces questions et cette frustration s'est transformée en colère. Ils étaient en colère parce que leur vie ne se déroulait pas comme ils l'avaient imaginé au début. Et alors, il y a des gens qui sont fâchés. Ils sont fâchés, je ne sais pas, contre la vie, contre ceux qui ne voient pas les choses comme eux. Et au fond, je crois, ils sont fâchés contre Dieu. Parce que Dieu a permis que les choses se déroulent d'une manière inattendue pour nous tous. Nous devons y faire attention, frères et sœurs, et nous rappeler toujours que Dieu est plus grand que nous, qu'il voit bien plus loin, et que Dieu fait des choses à sa manière, non pas à notre manière. Même si nous pensions qu'il devait agir de telle ou telle manière, et qu'il choisit de faire autrement, c'est sa volonté qui est la meilleure. même si nous ne le comprenions pas ou si nous ne le comprenons pas dans tous les détails. Il est très important pour le chrétien de garder son équilibre, de ne pas céder la place à la colère ou à des émotions fortes qui peuvent détraquer notre manière de nous comporter. Portez-vous à Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce passage nous incite à nous efforcer de garder notre équilibre émotionnel, de ne pas céder la place, comme j'ai dit, à la colère ou à la frustration, parce que finalement les fruits ne sont pas bons quand nous nous laissons aller à ce genre de choses. Alors, nous devons tous nous examiner nous-mêmes, on ne peut pas le dire les uns des autres, mais si nous trouvons chez nous une amertume à cause de choses que Dieu permet, ou une animosité envers quelqu'un d'autre, ou la colère, ou la clameur, c'est-à-dire de dire à haute voix des frustrations qu'on a à propos de Dieu ou l'Église ou de quelqu'un, la calomnie de dire, de parler faussement de quelqu'un, de parler mal de quelqu'un, et toute espèce de méchanceté, tout ce qui est méchant, tout ce qui n'est pas doux et gentil, tout cela ne doit pas se trouver chez nous. Se laisser aller à limiter Dieu dans nos esprits et de penser que Dieu ne peut et ne doit agir que selon ce que nous avons imaginé et de nous frustrer quand ce n'est pas le cas, est une espèce, à mon avis, d'idolâtrie, parce que nous limitons Dieu dans notre esprit. Et c'est ça ce qu'une idole fait, et c'est ça que Dieu interdit. Ce n'est pas la seule leçon que nous pouvons apprendre de l'idolâtrie. D'autres choses sont soulignées dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, peut-être sur la même page. Éphésiens chapitre 5 et le verset 5, nous avons une autre définition de l'idolâtrie pour l'ère du Nouveau Testament. Car, Éphésiens 5, 5, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ici, c'est la cupidité qui équivaut à l'idolâtrie. La cupidité, le désir immodéré d'avoir quelque chose auquel on n'a pas droit. Et Éphésiens 5, 5 n'est pas le seul endroit où cela est mentionné. Considérons Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. Paul dit ici, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » La cupidité est une idolâtrie également, puisque c'est fixer ses regards sur les choses physiques au dépend de notre obéissance à Dieu, de notre obéissance physique, de notre obéissance même au niveau des pensées, même au niveau de notre attitude. Toujours vouloir plus, se fixer sur l'importance des choses physiques, ou n'importe quelle autre chose qui pourrait devenir plus importante que notre obéissance à Dieu. Ça aussi, c'est une idolâtrie. Est-ce que faire accomplir la volonté de Dieu est toujours la chose la plus importante pour nous? Ou est-ce que cela se mélange avec d'autres désirs? Il arrive parfois que nous nous trompions nous-mêmes et que nous mélangeons dans notre esprit nos désirs avec l'accomplissement de la volonté de Dieu, de telle sorte que dans notre esprit, nous pensons que nous devons accomplir ou avoir ou faire telle ou telle chose pour accomplir la volonté de Dieu, quand en réalité, il n'y a pas de lien entre les choses que nous considérons. Alors nous devons faire attention à ce genre d'idolâtrie également, la cupidité, tout ce qui pourrait s'interposer entre notre obéissance à Dieu et nous-mêmes. Ça, c'est une première leçon que nous devons apprendre de l'exemple de l'ancien Israël. Nous ne devons pas devenir idolâtres. Nous ne devons pas remplacer notre obéissance à Dieu par quoi que ce soit d'autre ou empêcher notre obéissance de bon cœur à ce que Dieu nous demande de faire. Deuxième chose que nous pouvons trouver dans 1 Corinthiens chapitre 10, le deuxième élément qui était mentionné au verset 8 était ceci. « Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Il est question de quel exemple? Bien, remontons à Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25, à partir du verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans ses mains. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël, et il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Vous avez noté que dans 1 Corinthiens 10, il est question de 23 000, et ici 24 000. Comment est-ce que cela s'explique? Eh bien, dans 1 Corinthiens 18, c'est marqué 23 000 en un seul jour. Et puis, dans Nombre 25, il est question de 24 000 en tout. Il y avait des gens qui devaient être pendus. Il y avait peut-être d'autres qui mouraient le lendemain de la plaie ou parce qu'ils ont été exécutés à cause de leur complicité. Mais en tout cas, il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. Intéressant à noter ici dans Nombre 25, puisque là nous avons l'exemple à Baal-Péor de comment les enfants d'Israël se sont livrés à la débauche. Et vous notez ici que l'infidélité physique ici était liée à l'infidélité spirituelle. C'est quand ils commençaient à se prosterner devant d'autres dieux qu'ils se sont laissés aller à la débauche aussi. Je trouve cela intéressant car il y a, à mon avis, un lien encore aujourd'hui entre l'impudicité physique et l'impudicité spirituelle. Et ceci va être particulièrement important pour les jeunes de comprendre. C'est souvent les incitations de la chair qui incitent des personnes à abandonner l'Église, abandonner leur foi, abandonner leur rapport, leur relation avec Dieu. C'est les incitations de la chair. Les péchés de la chair, les péchés sexuels, ont déjà sorti plus d'un chrétien de la bonne voie de l'Église, du corps de Christ. Et en particulier, enfin, des personnes de tout âge, hein, mais les jeunes en particulier, doivent veiller à cela. C'est un piège qui est très, très puissant. On se sent attiré par une personne, par tout ce que le monde peut offrir d'excitant sur le plan de la passion. Et puis finalement, notre attachement à Dieu et à la volonté de Dieu peut s'affaiblir avec le temps. Regardons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 3. Ici aussi, nous avons l'encouragement de Paul de rester propre physiquement. Parce que ce qui se passe au niveau physique nous affecte aussi au niveau spirituel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Nous devons rester propres. Il est question de sanctification, d'être mis à part dans une autre catégorie. Et nous devons rester ainsi physiquement. Je dirais qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il y a peut-être un autre danger qui ne guettait pas autant à l'époque de l'apôtre Paul ou l'ancien Israël. Nous devons rester propres mentalement aussi. La pornographie devient une plaie terrible maintenant dans notre 21e siècle. C'est possible sur Internet de voir des images que quelques années en arrière, il aurait été très difficile, il fallait les rechercher vraiment dans des revues ou je ne sais pas quoi. Mais maintenant, vous pouvez, chez vous, dans votre bureau, là où vous avez votre ordinateur, c'est possible de voir des choses absolument atroces et inouïes. C'est de plus en plus courant en Europe, en particulier en Europe. Aux États-Unis, c'est très mauvais sur Internet, mais on ne permet pas dans les affichages et autres choses la nudité, ce genre de pornographie en fait, car c'est de cela qu'il s'agit. Mais en Europe, c'est très courant d'avoir la sensualité, la sexualité ouverte sur des panneaux de publicitaires pour vendre des produits. C'est très courant de voir ça à la télévision, pour amuser, pour allécher les gens, pour qu'ils regardent la télé. C'est de plus en plus courant dans le cinéma. Chaque film qui sort doit aller un peu plus loin pour toujours épater les gens. Alors nous devons faire attention parce que nous vivons dans cet environnement-là. Et il faut un grand effort pour rester propre, mentalement, tout aussi bien que physiquement. C'est le premier pas vers une pente glissante que de permettre à certaines de ces images d'entrer dans nos esprits. Il y a des images qui entrent et qui ne ressortent plus ou très difficilement. Alors, nous ne devons pas nous livrer à la débauche. Et ça veut dire non seulement physiquement dans la lettre de la loi, mais ça veut dire aussi dans l'esprit de la loi, même au niveau de la pensée. 1 Corinthiens chapitre 6 nous donne un principe qui est très important en ce qui concerne le fait de ne pas nous livrer à la débauche. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Là c'est marqué, « Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Pêche contre son propre corps. La débauche, l'impudicité physique, crée des dégâts en nous-mêmes. Nous nous faisons des dégâts nous-mêmes. Et en fait, ce n'est pas difficile à comprendre. Les pulsions sexuelles dans l'être humain sont parmi les plus puissantes de toutes celles qui nous motivent. Nous sommes hommes ou femmes, et le désir d'un conjoint, le désir physique, tout cela fait partie de ce que nous sommes. C'est très motivant, c'est les plus puissants motivateurs que connaissent l'homme et la femme. Alors, elles sont très importantes, ces pulsions, pour notre identité, pour savoir qui nous sommes. Et ça veut dire que quand nous utilisons mal ces pulsions que Dieu a mises en nous tous, qui ne sont pas mauvaises, qui sont bonnes quand elles sont utilisées correctement, mais quand nous les utilisons mal, cela peut créer de graves problèmes pour nous. Cela peut entamer la solidité de notre identité. Et les personnes qui ont eu de multiples partenaires dans le monde, qui passent d'une personne à une autre, très souvent, il y a des problèmes émotionnels qui s'en suivent. Parce qu'on ne peut pas jouer avec ces forces puissantes que Dieu a mis en nous sans payer le prix. C'est peut-être en partie ce que Paul voulait dire quand il a dit que celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps, pêche contre ce qu'il est véritablement. Le monde va devenir de plus en plus mauvais dans ce sens, frères et sœurs. Et il sera de plus en plus important pour nous de maintenir une ligne de conduite qui est correcte et propre vis-à-vis de Dieu. Les Israélites se sont laissés aller à la débauche et beaucoup en ont payé le prix. Et Dieu dit que nous devons faire attention à cette leçon si nous voulons être dans le royaume de Dieu et hériter la vie éternelle. Troisième leçon qui est soulignée pour nous dans 1 Corinthiens chapitre 10 se trouve au verset 9, où elle est marquée « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Là, il est question de quel épisode chez les Israélites. Bien, nous pouvons remonter à Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, verset 5. Nombre chapitre 21, verset 5. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des hommes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, en parlant de la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Qu'est-ce que cela veut dire tenter le Seigneur? Eh bien, dans ce sens-ci, puisque c'est marqué dans 1 Corinthiens 10, ils tentaient Dieu, et c'est pour ça qu'ils ont péri. Ici, c'est ils murmuraient, ils parlaient contre Dieu et contre Moïse. Ils imputaient des motivations à Dieu, en fait. Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. Tu ne nous donnes pas assez à manger. Les choses ne sont pas bien faites. Il n'y a pas d'eau à boire. Je m'inquiète de mes enfants, etc., etc. On peut dire, je crois, que tenter le Seigneur, c'est pousser des limites de ce qui est acceptable. C'est voir combien loin on peut aller en défiant ses instructions. Tenter Dieu est lié à une attitude de défi, une attitude d'opposition, de contestation, comme les enfants d'Israël ont eu ici, vis-à-vis de Dieu. Si vous êtes parents, je suis certain que vous avez déjà vu cette attitude chez les enfants, parce que c'est une attitude qui fait partie de la nature humaine, en fait. Hein. Les enfants testent des limites. Ils savent qu'il y a telle ou telle règle dans la maison, maman ou papa a dit ceci ou cela, mais ils vont jusqu'à la limite pour voir s'ils ne peuvent pas aller un peu plus loin. Et ils continuent de pousser un peu plus loin, de tester, jusqu'à ce que finalement maman ou papa interviennent. Ils tentent leurs parents, si vous voulez. Et je crois que tout parent a expérimenté cela. Il veut voir jusqu'à quel point ils peuvent aller avant d'être punis. Jésus a dû affronter une tentation que Satan lui a lancée de tenter l'Éternel, de tenter son Père. Cet épisode-là, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Où nous avons ce grand combat spirituel où Satan a attaqué Jésus-Christ, qui s'est défendu en utilisant l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 5. Le diable, c'est la deuxième attaque de Satan ici, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. En fait, ce que Satan lui proposait au verset 5 et 6, en citant des Écritures, aurait été la même chose que de tenter Dieu, d'exiger des choses de Dieu, mettre Dieu devant un fait accompli, ou on essaie de forcer la main de Dieu d'agir comme nous voulons, quand nous voulons. Ce n'est pas l'attitude de demander quelque chose à Dieu et puis de patienter pour voir comment Dieu va agir, ou demander selon la volonté de Dieu. c'est exiger que Dieu fasse ce que nous voulons tout de suite. Et c'était l'attitude des Israélites aussi. Nous voulons du pain, maintenant. Nous voulons de l'eau, maintenant. Cette attitude-là est très mauvaise, évidemment. C'est un manque de respect envers notre Créateur. Mais il y a toujours des gens qui ne sont pas contents de la manière dont Dieu fait les choses. Ça me rappelle l'histoire d'une dame qui faisait un cours de Bible aux enfants. Et la leçon du jour, c'était l'omnipotence de Dieu, que Dieu est tout-puissant, il peut tout. Et elle a demandé à un moment donné une question aux enfants, « Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne puisse pas faire ?» Et il y avait silence. Et elle était contente, la dame, parce qu'elle pensait que les enfants avaient bien appris la leçon. Mais finalement, un petit garçon a levé la main. Et là, la dame était déçue, pensant que au moins un enfant n'avait pas compris son point. « Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire ?» a demandé la dame. Le garçon a répondu, « Il ne peut pas plaire à tout le monde. » Et, frères et sœurs, je crois que c'est vrai. Quoi que Dieu fasse, il y a toujours des personnes qui ne sont pas contentes. D'ailleurs, ça c'est vrai, des gens aussi. C'est vrai, les gens aussi. Abraham Lincoln, un président américain, a dit, c'est un proverbe assez connu aux États-Unis, « Vous pouvez plaire à tout le monde une partie du temps, et vous pouvez plaire à une partie des gens tout le temps, mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps. » Et ça va un peu dans le même sens. Nous, au contraire, nous devons avoir une attitude d'humilité devant Dieu et devant son activité. Et de patienter, de demander, de présenter nos demandes, même nos demandes pressantes devant Dieu quand nous avons besoin d'aide ou quand nous estimons que quelque chose devrait changer. Mais après cela, notre attitude doit être celle de la patience, de faire ce que nous pouvons faire à notre niveau, mais ne pas essayer de faire le travail de Dieu à sa place à lui. Deutéronome chapitre 6 met en opposition deux attitudes, l'attitude de tenter le Seigneur et une autre attitude que nous devrions avoir qui est beaucoup plus importante. Deutéronome chapitre 6, verset 16. C'est Moïse qui parle ici, il dit « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, c'est l'exemple que nous avons lu avant. Mais, au contraire, vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » Peut-être qu'on ne voit pas tout de suite qu'il s'agit de deux attitudes, mais deux choses sont mises en opposition ici, dans ce passage, dans Deutéronome 6. D'abord, il y avait l'attitude de la défiance, de tenter Dieu, d'exiger que Dieu fasse ceci ou cela, puisque les choses ne sont pas bien faites. Et en opposition à cela, il y a simplement l'obéissance confiante, que quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, ce qu'il nous dit de faire, en fin de compte, les résultats seront bons, même si, pour le moment, on ne voit pas comment ça peut se faire. Il y a une confiance tranquille que nous devrions avoir envers Dieu. C'est cette attitude-là que nous devrions viser. Et c'est le contraire de l'attitude de tenter d'être exigeant et critique envers la manière de Dieu de faire les choses. La quatrième leçon que nous pouvons trouver dans 1 Corinthiens chapitre 10 se trouve au verset 10, où il est marqué « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Là, il s'agit de quoi? Eh bien, nous avons déjà lu au moins un exemple, il y a plusieurs exemples, des enfants d'Israël ont murmuré, mais relisons de nouveau Nombre chapitre 21, Nombre 21, versets 5 et 6. Les enfants d'Israël s'impatienta, nous voyons à la fin du verset 4, et c'est souvent là le problème, c'est quand on perd patience, on veut que les choses se passent tout de suite maintenant. Et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Alors, c'est là où Dieu a envoyé une punition. Et il y avait des gens qui, selon 1 Corinthiens 10, ont péri par l'exterminateur. Qu'est-ce que ça veut dire, murmurer? on pourrait penser que ça, c'est pas quelque chose d'applicable aujourd'hui. Ça, c'est en ancien Israël. Aujourd'hui, on ne murmure pas. Mais murmurer, c'est quoi? Eh bien, ce que nous voyons ici, c'est simplement parler contre. Parler contre Dieu ou quelqu'un. Surtout ici, c'est dans le contexte de serviteurs de Dieu ou de personnes qui sont impliquées à faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont impliqués dans l'œuvre du corps de Christ. Il s'agit en fait, je crois que nous pouvons le voir, d'une attitude négative, de parler contre d'autres personnes, et comme j'ai dit, surtout par rapport à l'œuvre. Nombre chapitre 14 donne un autre exemple du murmurer et montre comment cela peut commencer. Car nous allons voir ici dans Nombre 14 que parfois ça peut commencer avec peu de personnes, mais ça peut s'étendre aussi si on ne fait pas attention. Nombre chapitre 14, verset 36. Moïse avait envoyé des espions dans la terre promise, n'est-ce pas, pour le voir. Deux ont donné un bon rapport, ils étaient un excellent exemple. C'est possible, il y a des difficultés, mais nous pouvons avec l'aide de Dieu les surmonter. Les 10 autres ont mis l'accent sur ce qui était négatif. Oh, c'était terrible, il y a des géants, ils vont nous écraser, c'est pas possible, c'est impossible ce que Dieu nous demande de faire. Et quel était le résultat? Eh bien, verset 36, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute assemblée, en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Dieu a intervenu, parce que quand on a cette attitude de négativisme vis-à-vis de l'œuvre que Dieu accomplit ou ce que Dieu peut accomplir dans nos vies, eh bien, c'est une attitude que Dieu ne peut pas utiliser et qui n'a pas accepté ici. Mais ce que je voulais souligner ici, je trouve intéressant, c'est que il y avait 10 hommes qui ont fait murmurer contre Moïse toute l'assemblée, une assemblée de plusieurs millions de personnes, si nos calculs sont bons. Il a suffi de 10. Quel est le pourcentage? C'est même pas 1%. Même pas 1%, un tout petit peu de gens peut faire monter des murmures, peut créer une ambiance négative, peut créer un négativisme qui empêche l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Ça aussi, ça me rappelle l'histoire d'un fermier qui est entré dans la ville pour demander à un propriétaire de restaurant s'il ne voulait pas lui acheter des cuisses de grenouille. « Combien en avez-vous ?» a demandé le propriétaire. Le fermier a répondu « J'ai au moins 1000. Il y a un mare près de chez moi qui remplit de grenouilles, font du bruit, mais un bruit atroce toute la nuit et sont prêts à me rendre fou. » Alors les deux hommes se sont mis d'accord pour un prix et ils se sont mis d'accord également que le fermier ferait la livraison de la première centaine de grenouilles une semaine après. 7 jours après, le fermier est venu, l'air un peu gêné. Il n'avait que 2 grenouilles. Je m'étais trompé, a-t-il expliqué. En fait, il n'y avait que ces 2 grenouilles dans tout le mare. Mais qu'est-ce que faisait le bruit? Et c'est vrai que beaucoup de bruit peut venir de peu, parfois. C'est parfois pareil avec ceux qui se plaignent. Ça commence petit et ça peut s'étendre. Peu de gens peuvent faire beaucoup de bruit et finalement du mal, comme nous avons vu ici dans Nombre chapitre 14. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte ou être sûrs de ne pas se laisser piéger par ce genre de choses? Eh bien, considérons Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. C'est les lamentations de Jérémie, qui a vu beaucoup de choses pénibles et difficiles. La chute de son pays, la captivité. Mais dans le chapitre 3 de Lamentation 3, Jérémie dit quelque chose d'important et d'utile pour nous aider à échapper à ce piège de murmurer. Lamentation, chapitre 3, verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Quand nous commençons à nous plaindre plutôt des autres, c'est que nous oublions que nous aussi nous sommes de chair, que nous avons nos points faibles également. Et que notre travail primordial, c'est de travailler sur nous-mêmes. Jugez-vous vous-même et vous ne serez pas jugé. Pourquoi voudrions-nous nous plaindre des autres quand nous avons tellement de travail à faire chez nous? Nous devons faire attention, frères et sœurs, de ne pas nous laisser piéger par d'autres personnes qui voudraient nous inciter à murmurer contre ce que Dieu est en train de faire. Dieu n'utilise pas des personnes parfaites pour accomplir son œuvre. Comme Moïse n'était pas parfait, il avait ses problèmes, mais Dieu l'utilisait malgré ses problèmes et ses faiblesses, et il voulait qu'il y ait une attitude positive en Israël, une attitude d'accomplissement, pas une attitude négative ou critique. 1 Thessaloniciens chapitre 5 est un autre passage qui nous explique l'attitude que nous devrions avoir. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Excusez-moi, 1 Thessaloniciens chapitre 5 plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce passage peut sembler difficile à mettre en application. Rendez grâce en toutes choses, même dans les difficultés, même dans les situations qui sont imparfaites. Eh bien oui, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations difficiles que Dieu permet dans nos vies vont tourner à notre bien, si nous persévérons et si nous nous comportons comme Dieu nous demande de le faire dans les situations difficiles. Quand nous comprenons cela et comme nous avons cette optique-là, nous pouvons rendre grâce en toutes choses. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devrions prendre les choses du côté positif. Il y a parfois des choses que nous pouvons faire pour améliorer la situation, et ça, nous devons le faire. Ça, c'est tout à fait correct, et même, c'est bien. Mais, tout en faisant cela, nous devons patienter pour des choses qui ne sont pas comme cela devrait être, en sachant que Dieu est en train de travailler avec nous tous. Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14 est un autre passage dans le Nouveau Testament, qui parle de l'importance de ne pas murmurer. Philippiens chapitre 2 et verset 14. Là, c'est marqué: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Paul dit que, en fait, dans toutes les choses qui sont liées ensemble là, que nous devons faire toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que nous soyons irréprochables et purs. Si nous murmurons, nous ne sommes pas irréprochables et pur. Nous ne montrerons pas le genre d'exemple que Dieu voudrait voir, et il y a même le risque, d'après le verset 16, de faire travailler en vain Jésus-Christ en nous. Parce que si nous avons cette attitude de négativisme, eh bien, d'après ce que nous lisons ici, nous allons dans un sens qui ne va pas finalement nous amener dans le royaume de Dieu. Comme j'ai dit, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que nous devons fermer les yeux ou être aveugles aux choses qui arrivent. Nous devons bien réfléchir, être conscients de ce qui se passe. Et si nous avons des suggestions pour améliorer telle ou telle situation, ces suggestions sont les bienvenues. Mais en même temps, nous ne devons pas nous laisser aller à une attitude négative ou critique, parce que c'est, en fait, ce n'est pas utile, et ça revient finalement à rejoindre ce piège-là, qui est le fait de murmurer, d'avoir cette attitude négative. Alors, frères et sœurs, parmi les leçons que Dieu souligne pour nous dans l'Ancien Testament, qui sont importantes pour nous aujourd'hui dans l'ère du Nouveau Testament, il y a les quatre que nous avons vues aujourd'hui. Nous devons faire attention de ne pas être idolâtres, de ne rien laisser venir entre nous et notre obéissance à Dieu, de ne pas limiter Dieu non plus dans nos esprits. Nous devons faire attention de ne pas nous laisser aller à la débauche dans une société qui est de plus en plus débauchée. Nous ne devons pas tenter Dieu, être exigeant envers lui, essayer de lui imposer notre volonté. Nous devons toujours être prêts à respecter sa volonté. Et quatrièmement, nous devons faire attention de garder une attitude positive, de ne pas avoir une attitude négative, de vouloir murmurer. Ce sont des leçons qui sont pour nous expressément dans l'ère du Nouveau Testament. Alors, frères et sœurs, c'est à chacun de nous de mettre en pratique ces leçons importantes.